23h minuit. Toute une journée en une heure, c'est le meilleur du tour. Christophe Cessieux.
Les grandes manœuvres ne vont pas tarder à débuter. Donc dans le peloton, on vise la victoire d'étape, on vise le podium de ce Tour de France et on vise aussi le maillot à pois rouge de meilleur grimpeur. On va retrouver la moto RMC, Georges Quirino, qui va aborder dans quelques instants la dernière ascension de ce Tour de France. Profites-en, Georges. Ensuite, il faudra attendre un an avant de retrouver ton fidèle compagnon, Marc Lecompte.
Oui, et on est devant l'homme de tête qui passe à l'instant sous la banderole indiquant les 25 derniers kilomètres. Jens Voigt, la bouche grande ouverte de l'Allemand, qui rentre à l'instant même dans le département de Haute-Savoie. À nouveau, on est désormais dans la plaine, on en a fini avec la descente du Revar. Ça va très très vite pour l'Allemand qui a les mains en bas du guidon, encouragé par son directeur sportif Alain Galopin qui est juste derrière lui. On est au milieu des pâturages et des troupeaux de vaches largement nombreux sur le bord de la route. Et El Diablo, que l'on dépasse à l'instant, le supporter le plus connu du Tour de France, qui cette année a une tenue toute particulière. D'habitude, il est en rouge intégral diable, hein, et là il a une tenue jaune diable pour fêter la centième édition du Tour de France. Même El Diablo donc avait prévu une tenue spéciale pour cet anniversaire. Et donc Jens Voigt toujours concentré sur son effort, il ne regarde pas derrière lui, concentré, le regard bien devant pour l'Allemand qui se rapproche de plus en plus des premières pentes du Semnoz.
Georges Quirino et Marc Combes qui sont un peu nos Don Quichotte et Sancho Panza ici sur RMC avec leur fidèle destrier dans la dernière ascension de la journée. 24 km 200. Fred, on va parler de ce Semnoz qui est une magnifique montagne ici avec une vue plongeante sur le Mont Blanc. Tu es allé tout à l'heure te balader, évidemment. On ne peut pas t'empêcher d'aller gambader dans les alpages. Qu'est-ce que tu as vu comme bestiole? Il y a des vaches.
Il y a des vaches.
On nous a dit là il y a quelques instants.
De très belles hôtesses également là-haut parce que c'est là.
Ah oui, c'est là qu'elles sont.
Là-haut,
on nous les a planquées là-haut.
Je ne savais pas que des vaches étaient une bestiole.
Non, bah elles sont cachées, les bêtes. Qu'elle s'appelle chamois, bouquetin ou marmotte, quand elle voit le barnum du Tour de France arriver, ouais. Évidemment que c'est tous aux abris, mais le cadre aujourd'hui est magnifique. Le Semnoz, c'est effectivement un sommet qui culmine à 1655 mètres d'altitude. Elle est surnommée la montagne des Annecéens. Elle domine effectivement le lac d'Annecy, mais surtout de là-haut, au-dessus des sapins, là-haut sur une vue totalement dégagée. On a un panorama à 360 degrés, on sait qu'on ne monte pas près de 11 km depuis le lac d'Annecy pour rien, avec effectivement vue sur le massif du Mont Blanc. Vous avez un 360, donc on va pas vous faire tous les sommets, mais ça part des Aravis. Vous avez le col de la Forcla, vous avez au loin là-bas les Écrins, le massif des Écrins. On a également aperçu la tête de chat juste à côté des aiguilles d'Arves. C'est au-dessus de la station de Saint-Sorlin-d'Arves, dans le col de la Croix de Fer.
Il est impressionnant.
Non, c'est sublime. Il y a la vue sur les sommets suisses également, vue sur le Mont Tabor entre Suisse et Italie. C'est la totale. C'est un paradis. Ouais. Et définitivement, les organisateurs du 100e Tour de France ont mis les petits plats dans les grands. Du départ de la Corse jusqu'à la Côte d'Azur, l'arrivée sur la promenade des Anglais, le Mont Saint-Michel, l'arrivée au pied des remparts de Saint-Malo. Ça a été la totale. Le Mont Ventoux, la double Alpe d'Huez et ce bouquet final ici au Semnoz. Ouais. Merci beaucoup à eux.
Bon, on a bien compris en tous les cas que toutes les marmottes étaient cachées aujourd'hui.
S'il s'était mis sur la pointe des pieds, il aurait vu le Ménézoum là-bas dans dans le sud Finistère.
Oh, ça m'étonnerait qu'on voit d'ici.
Non,
hein.
Mais sans vouloir faire de jeu de mots, ce soir, à 1655 mètres d'altitude, c'est une certitude, les rescapés du Tour de France auront vu sur le Mont Blanc avec la Tour Eiffel en arrière-plan.
RMC, les 10 derniers kilomètres.
Et les movie stars qui commencent à mettre le feu dans ses premiers lacets. Fred, un coéquipier de Quintana qui a donc attaqué, mais qui a accéléré le rythme plus exactement. Chris Froome en deuxième position.
Et c'est Rui Costa, le double vainqueur d'étape sur ce Tour de France, qui mène la danse. Effectivement, il est en train d'écrémer le groupe maillot jaune avec donc dans sa roue Christopher Froome. Il y a là Richie Porte, Nairo Quintana, Alberto Contador, Roman Kreuziger, Joaquin Rodriguez. On aperçoit également également Romain Bardet, toujours le coureur de l'équipe AG2R La Mondiale, 16e du classement général et premier français qui souffre d'une angine mais qui tient bon. Un groupe qui est en train de fondre à vue d'œil. On est en train de faire le ménage. Rui Costa a encore des jambes malgré sa victoire hier au Grand Bornand.
Voilà, Pierre Roland qui va se faire rattraper dans quelques instants par Rui Costa, Chris Froome, Richie Porte, Quintana, Contador, Kreuziger, ils sont tous là, tous les cadors, ceux qui depuis trois semaines maintenant nous font rêver, eh bien ils vont se livrer une dernière bataille, ce sera la dernière grande bataille de ce Tour de France 2013. Pierre Roland, rattrapé à l'instant même donc par l'avant-garde du peloton maillot jaune, la bagarre pourrait débuter quand, Cyril, pour aller chercher ce podium du Tour de France?
Elle est partie, puisque Rui Costa a essayé de durcir la course, c'est son rôle, de façon à mettre à la rupture Contador, c'est l'objectif, et Rui Costa qui est tout simplement en train de relancer l'allure avec le maillot jaune dans sa roue, mais aussi avec ses équipiers.
Il y a un garçon qui vient d'attaquer, Fred.
Et oui, c'est le dynamiteur de cette fin de troisième semaine. Ce n'est plus Contador, mais bien son compatriote Joaquin Rodriguez, le grimpeur catalan qui pointait ce matin à la 5e place du classement général et qui apparemment a des rêves de podium puisqu'il était à 47 secondes, très exactement, du deuxième, Alberto Contador. On vous rappelle que derrière l'intouchable Christopher Froome, ils sont quatre coureurs en moins de 50 secondes. Rodriguez qui a testé la concurrence avant de rentrer dans le rang. Rui Costa, le portugais de la Movistar, est en train de s'écarter à l'avant du groupe maillot jaune, relayé à l'instant par Alejandro Valverde. Valverde qui veut lancer son grimpeur colombien Nairo Quintana, meilleur jeune du Tour et surtout troisième du général. Vous voyez qu'on est en train de positionner les pions de manière idéale. Valverde qui a dans sa roue Richie Porte, Christopher Froome, Quintana en 4, Contador en 5, Kreuziger en 6 et Rodriguez en 7, tandis que Kreuziger effectivement vient de laisser passer Joaquin Rodriguez et lâche mètre après mètre. C'en est terminé des rêves de podium pour Roman Kreuziger.
Ah, il s'accroche, il tente de s'accrocher, il se met en danseuse pour tenter de revenir, bah car derrière, devant, c'est un petit peu ralenti, mais il ne parviendra pas. Il sait qu'il laisse échapper là le podium et peut-être voilà le top 5 de ce Tour de France.
En voilà un de moins dans le mouchoir de poche dans lequel se tenaient quatre coureurs ce matin pour cette deuxième place. Il n'y a plus donc que Contador, Quintana et Rodriguez concernés par cette deuxième place.
Kreuziger qui est en difficulté, Lucho. Kreuziger, ouais, qui dit adieu au podium en ce moment.
Hein. Oui, bah, il dit complètement adieu au podium. Mais ce que je remarque dans le groupe maillot jaune, c'est que Rodriguez est dans la roue de Quintana et Rodriguez attend l'attaque de Quintana parce qu'il
ils sont
tous les deux très très costauds et sans tarder, Quintana risquerait d'attaquer avec Rodriguez dans sa roue.
Ouais, c'est de
mauvaise nouvelle. Ils ne sont plus que 6 en tête.
Oui.
Donc le maillot à poids ne sera pas sur les épaules.
Ah oui, effectivement, Cyril, tu nous le disais tout à l'heure. Donc Pierre Roland qui voit ses derniers espoirs.
Attention, l'accélération de Nairo Quintana peut-être qui se porte à hauteur de Richie Porte et de Christopher Froome sur la gauche de la route.
Rodriguez
qui a accéléré. On a laissé un trou chez Sky. Christopher Froome et Richie Porte sont un petit peu à sec à 8 km 300 de l'arrivée.
Sec aussi, hein.
Rodriguez et Quintana ouvrent la route.
Le sprint. On attendait le sprint de Chris Froome, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas eu.
Contre-attaque de Chris Froome qui vient assommer Rodriguez et Quintana. Il met la surmultiplier le maillot jaune britannique à plus de 8 km de l'arrivée au Semnoz. Il a laissé filer Rodriguez et Quintana lorsque son équipier Richie Porte était en train de décrocher. Il est revenu tout seul comme un grand en déposant littéralement Contador et Valverde.
Ah, mais il aurait battu Cavendish là dans un sprint en ligne sur cette accélération.
Il nous refait le coup du Ventoux avec ses accélérations, avec une fréquence de pédalage très élevée. Il ne s'est pas du tout attardé aux côtés de Quintana et Rodriguez. Il compte désormais une petite vingtaine de mètres d'avance sur ce duo-là.
Il procède par accélération.
Exactement comme dans le Ventoux.
Contador est en train de perdre le podium.
Contador qui était en difficulté depuis plusieurs jours. Alberto Contador qui est lâché à l'arrière de ce groupe maillot jaune avec Chris Froome donc devant, juste derrière dans sa roue. Rodriguez et Quintana qui ne sont plus qu'à 400 mètres. Rodriguez qui fait l'effort maintenant pour revenir dans la roue du maillot jaune et Contador tout comme son coéquipier Kreuziger qui sont lâchés. Contador qui était ce matin deuxième au général,
8 km,
et 21 secondes d'avance sur Quintana.
C'est long.
On va voir, mais il est en train peut-être de perdre la deuxième place et peut-être le podium.
Un trio à 6 km de l'arrivée, à 6 km du Semnoz, la dernière difficulté de ce 100e Tour de France, classé hors catégorie, et il reste des pentes raides pour le trio de tête composé de Christopher Froome, le maillot jaune, de Nairo Quintana, le maillot blanc, grimpeur colombien, et de Joaquin Rodriguez, le grimpeur espagnol de l'équipe Katiusha. Ces trois-là dans cette cet ordre devrait être sur le podium à Paris. 5 km 900 maintenant. Et Christopher Froome qui vient de s'écarter pour laisser Joaquin Rodriguez prendre le relais. On ne s'attaque pas dans ce groupe de trois.
Ils ont intérêt à unir leurs efforts, évidemment, pour larguer les autres.
Alberto Contador est désormais relégué à 40 secondes. Il a avec lui Roman Kreuziger, son coéquipier de la Saxo Tinkoff, et un Richie Porte, coéquipier de Christopher Froome, qui joue le poids mort, c'est-à-dire qu'il mène presque une guerre psychologique à Alberto Contador, qui se retourne, qui aimerait bien voir Richie Porte rouler, mais Porte, évidemment, n'a aucun intérêt à rouler sur son coéquipier maillot jaune Christopher Froome. On a vraiment l'impression que les Sky veulent enterrer Contador, ce qu'ils sont en train de faire.
Voilà. C'est bien de voir qu'il y a des garçons qui souffrent et qui n'ont plus les mêmes forces. Il y a quelques années, on n'avait même pas l'impression d'être en troisième semaine. Ils auraient pu faire une quatrième, voire une cinquième semaine. Désormais, il y a des garçons qui connaissent la défaillance dans les derniers jours du Tour de France.
Ça y est, Contador vient de perdre sa place sur le podium. 47 secondes, c'est exactement l'écart qui sépare Christopher Froome, Joaquin Rodriguez et Quintana d'Alberto Contador, qui ne cesse de perdre du terrain à un peu plus de 5 km de l'arrivée ici au Semnoz.
On va faire un nouveau top course pour se mettre bien en tête tous les écarts. Fred, le top course.
3 km de l'arrivée ici au Semnoz à 1655 mètres d'altitude. Dernière montée du Tour de France. Une difficulté classée hors catégorie. Et trois hommes en tête. Joaquin Rodriguez, Nairo Quintana et Christopher Froome respectivement. A priori ce soir, 3e, 2e et 1er du classement général. Attention, tout peut encore arriver avec des imbéciles qui courent à côté.
Froome qui vient de mettre une mandale à un supporter.
Trio de tête, Christopher Froome. En plus de faire la loi sur le vélo, est en train de faire le ménage. Un coup de poing dans un supporter.
Bien fait pour lui.
Ça déchaîne, ça défoule.
Ah, mais j'aurais mis dans le nez, moi, plutôt.
Ça défoule, il l'a mis où il pouvait, Christopher Froome. Pas vraiment taillé comme un boxeur, Froome. Mais
oui, il va plus vite, pour le rattraper aussi derrière. Là,
je donne mon coup de poing et je m'en vais en roulant. Et
il a eu parfaitement raison de le faire parce qu'il était quand même limite de la chute.
Un trio de tête donc à 3 km de l'arrivée. Une minute d'avance sur Valverde et 1:30 sur Contador, Kreuziger et Richie Porte.
La moto RMC, Georges Quirino qui a les trois hommes en visuel là.
Oui, toujours Joaquim Rodriguez, le coureur de l'équipe Katusha qui se met en danseuse, qui emmène ce groupe de trois, et Nairo Quintana dans sa roue, et Christopher Froome qui lui par contre est toujours la tête baissée, il ne regarde pas devant lui, on a l'impression qu'il est en souffrance, mais c'est sa façon de rouler au maillot jaune, qui regarde son rythme de pédalage, qui regarde son pédalier depuis tout à l'heure. On a passé la banderole indiquant les trois derniers kilomètres, on est dans les lacets au milieu des arbres, très difficile de voir aujourd'hui ce qu'il se passe dans les derniers kilomètres, et ce groupe de tête toujours emmené par Purito Rodriguez.
Très bien, Georges, 2 km 600 de l'arrivée donc de ce Semnoz, magnifique paysage. Évidemment, nous sommes au-dessus d'Annecy, au-dessus d'Aix-les-Bains, dans cette magnifique Haute-Savoie. On va revenir donc sur le groupe de tête. Où est passé Chris Rumeau? Il est en 3e position, toujours dans la roue de Rodriguez et de Quintana. C'est Rodriguez qui fait l'effort, Cyril. Rodriguez qui peut-être dit adieu à ses espoirs de remporter l'étape. Lui, peut-être vise-t-il simplement à monter sur le podium, parce que là, il est en train de cramer les dernières gouttes d'essence qu'il a dans le moteur.
Oui, il n'a pas le choix. Hein. Il faut qu'il reprenne. Il fallait qu'il reprenne plus de 47 secondes à Contador. C'est fait. Mais c'est la victoire d'étape, sans doute, qui s'échappe pour lui. Donc, une victoire d'étape qui pourrait revenir à Quintana ou à Froome. Maintenant, rappelons-nous qu'il a une capacité d'accélération absolument phénoménale dans le final.
Mais est-ce qu'on peut accélérer Lucho quand on a mené le train comme ça toute la montée?
Ça va être difficile. Alors, peut-être que Quintana et puis Froome vont se dire Rodriguez a fait la montée à bloc pour faire troisième au général, donc on lui offre l'étape. Il y a que ça qui peut l'aider peut-être à remporter l'étape aujourd'hui. Donc, mais je vois mal comment Quintana va lui offrir l'étape quand même. Enfin, ceci dit, on va voir. Mais pour l'instant, tout se passe bien pour Rodriguez. De toute façon, il est troisième au général pour le moment. Donc, à moins que Froome en mette une.
Froome en mette une. Pour l'instant, il est en troisième position. Le maillot jaune de ce Tour de France, derrière le maillot blanc du meilleur jeune de Quintana et derrière le maillot de la formation Katusha de Joaquim Rodriguez. 2 100 km, Fred, et toujours ces trois hommes qui se baladent dans la montée du Semnoz.
Et ce sera très dur pour Joaquim Rodriguez d'aller remporter sa deuxième étape sur le Tour de France après son succès à Mende il y a 3 ans. Pourquoi ? Parce que depuis de nombreux kilomètres maintenant, c'est c'est lui qui imprime le train dans ce trio de tête. Et il a dans sa roue un Nairo Quintana qui ne pense qu'à cela, la victoire d'étape. Lui qui est d'ores et déjà assuré à 2 km de l'arrivée de monter sur la deuxième marche du podium. Christopher Froome observe les débats en troisième position. Joachim Rodriguez veut aller chercher la troisième place du classement général. Lui qui a déjà terminé troisième du général de la Vuelta l'an passé. Lui qui était porteur du maillot de leader et qui avait été débordé dans l'avant-dernière étape par un Alberto Contador survolté. Cette fois, il veut aller chercher le podium du Tour. Gros travail de Joaquin Rodriguez à 1,8 km de l'arrivée. Toujours Quintana, le maillot blanc dans sa roue, et Christopher Froome en troisième position.
Voilà, ils viennent juste de passer devant nous car nous sommes situés un peu plus bas que l'arrivée aujourd'hui. Il n'y avait pas assez de place là-haut pour installer tous les studios de télévision et de radio au sommet du Semnoz. Donc Rodriguez, Quintana et Froome qui viennent de passer à l'instant même et qui ne sont plus qu'à 1,7 km maintenant de la ligne d'arrivée et de la ligne d'arrivée de la dernière étape de montagne. Le podium de ce Tour de France qui est en train de se faire, il est fait désormais. Froome remportera le Tour de France, Quintana sera probablement deuxième et Joachim Rodriguez troisième de ce Tour de France. Alberto Contador va descendre du podium aujourd'hui. Terrible pour El Pistolero qui n'avait plus que des balles à blanc aujourd'hui dans l'ascension du Semnoz. 1,5 km, Fred.
Toujours ce trio emmené par Joachim Rodriguez, trois hommes en tête, trois hommes qui composeront demain sur les Champs-Élysées à la nuit tombée, qui composeront le podium du Tour de France. Christopher Froome observe les débats à 1,4 km de l'arrivée dans la roue de Quintana, deuxième, et Joaquim Rodriguez en tête de cette étape pour l'instant, mais qui devrait être débordé par le jeune grimpeur colombien de l'équipe Movistar qui a la victoire des étape en tête, assurément. Aucune trace, aucun stigmate de souffrance sur le visage de Quintana, tandis que Rodriguez, lui, grimace tout dedans dehors, le grimpeur catalan de l'équipe Katiusha. 34 ans Joachim Rodriguez, tandis que Quintana, lui, en a 24. 10 ans sépare ces deux dauphins de Christopher Froome. Christopher Froome, 28 ans, qui se positionne juste entre ces deux coureurs de classe d'âge différents. On aura un podium particulièrement hétéroclite.
Et effectivement, avec Froome qui est donc à la maturité de l'âge, Quintana qui est en devenir et Rodriguez qui est peut-être qui va peut-être descendre bientôt, mais en tous les cas il est encore là, Joachim Rodriguez, et il emmène ce petit groupe de tête dans l'ascension du Semnoz. Alors
attention, accélération de Christopher Froome sur la droite de la route, au train, assis sur la selle. On est à 1,2 km de l'arrivée et Christopher Froome vient d'en mettre une à ses deux petits copains, Joachim Rodriguez qui menait le bal. Nairo Quintana a mis 5 secondes pour réagir. La flamme rouge du dernier kilomètre.
Le dernier kilomètre.
Intégral Tour, la flamme rouge.
Le maillot jaune et le maillot blanc pour un mano à mano pour cette victoire d'étape prestigieuse, la dernière étape de montagne de ce Tour de France. Quintana qui a donc réagi à l'attaque de Chris Froome. Rodriguez n'a pas pu suivre les deux hommes. Ils sont donc tous les deux en tête et vont peut-être se disputer la victoire, Fred.
L'as du Tour de France veut son carré. Une quatrième victoire d'étape peut-être après ses succès à Croix-Donnem, au Ventoux et dans le contre-la-montre de Chorges. Il est contré, le maillot jaune britannique, par Nairo Quintana à l'instant, le Colombien maillot blanc qui n'a toujours pas remporté la moindre étape, lui qui est la révélation de ce centième Tour de France, deuxième assurément du Tour derrière Christopher Froome, maillot blanc, casque blanc de meilleur jeune du Tour de France. Nairo Quintana, héritier de Fabio Parra et Lucho Herrera, qui insiste en danseuse, qui prend 50-100 mètres d'avance maintenant sur le duo Froome-Rodriguez. Quintana qui prend date avec le Tour de France et qui devrait en remporter un dans les années à venir. Quel grimpeur,
je te dis pas la Colombie, Fred,
escaladeur, ils doivent être fous là-bas à Boucaya sur les plateaux.
Ah, ça doit être incroyable pour la victoire de Quintana. Chris Froome n'a pas souhaité ou n'a pas pu.
J'ai l'impression qu'il a fait l'attaque pour Quintana.
Mais oui, on a l'impression qu'il
a bluffé. À mon avis, il était un peu court. Il a senti qu'il n'avait pas le niveau de force de Quintana. Et quand on est moins fort, c'est bien connu. On en lance une en espérant que derrière ça s'observe et que derrière on montre ses limites. Non, Quintana, lui, ne bluffait pas et il avait bel et bien l'énergie de contrer Christopher Froome, ce qu'il n'a pas manqué de faire.
Incroyable sang-froid en tous les cas montré par Quintana tout au long de la montée. Il ne s'est jamais affolé, il a laissé les autres travailler et au moment où Froome a attaqué, il est revenu dans sa roue,
il a décroché,
il va remporter l'étape avec une belle marge et donc terminé deuxième de ce Tour de France. Quintana, jeune coureur colombien qui découvre le Tour de France, il a tout juste 23 ans, c'est le digne héritier de Lucho Herrera, de Fabio Parra qui avait enchanté le Tour de France dans les années 80 alors que Rodriguez à son tour vient de lâcher Chris Froome. Chris Froome a raison, Cyril, de ne pas s'inquiéter. Ils ne sont pas dangereux pour le classement général. Ils ne lui reprendront pas le maillot jaune tout à l'heure. l'heure.
Oui, mais tout simplement, il ne peut pas y aller. Hein.
Il peut pas y aller. J'ai l'impression que c'est bien que le tour se termine quand même pour Froome.
Avec la victoire de Nairo Quintana, 24 ans, coureur colombien de Bocaya, là-haut sur les hauts plateaux. Il y a les Kenyans en athlétisme et il y a les Colombiens dans le cyclisme. Nairo Quintana, premier Tour de France, maillot blanc de meilleur jeune qui va aller décrocher sa première victoire d'étape sur la plus grande course du monde. Lui qui sera deuxième du classement général à coup sûr derrière Christopher Froome. Nairo Quintana, héritier de Fabio Parra, héritier de Lucho Herrera et qui devrait nous régaler dans les années à venir. Il embrasse le ciel. Pour Nairo Quintana, victoire avec probablement une marge de sécurité largement suffisante sur Joaquin Rodriguez. C'est Christopher Froome qui va prendre la troisième place de l'étape.
Colombia aujourd'hui avec Quintana qui remporte donc l'étape. Joaquin Rodriguez en finit à son tour avec un retard de 18 secondes. Chris Froome va terminer lui aussi largué. Troisième position seulement pour Chris Froome. C'est la deuxième fois qu'on le voit légèrement en difficulté sur les routes de ce Tour de France. Il n'aurait pas fallu une quatrième semaine. 28 secondes de retard pour Chris Froome sur la ligne d'arrivée. Il remporte le Tour de France, c'est désormais officiel, mais le podium a changé. Valverde qui va en finir à son tour dans quelques instants, Fred.
Oui, Christopher Froome qui a pris soin de brandir le bras droit de manière assez modeste d'ailleurs, pas de bras levé au ciel, mais le poing bien serré. Il n'était pas largué, Christopher Froome, il a géré sa fin de montée du Semnose et effectivement, à la manière des coureurs qui franchissent la ligne d'arrivée sur les Champs-Élysées au cœur du peloton avec le maillot jaune sur le dos, il sait d'ores et déjà ici avec vue sur le Mont Blanc qu'il a remporté son premier Tour de France, lui qui à 28 ans s'était contenté de la deuxième place l'an passé derrière Bradley Wiggins. On est en train de dresser le tableau d'honneur du 100e Tour de France, étape pour Nairo Quintana le Colombien et le podium sera le suivant: premier Christopher Froome, deuxième Nairo Quintana le Colombien, troisième Joaquin Rodriguez, la quatrième place sera la propriété a priori de Alberto Contador devant Kreuziger, 5e. La 4e place de l'étape, cette fois ici au Semnose, va tomber dans l'escarcelle d'Alejandro Valverde qui en termine avec 1,40 de retard sur Quintana.
1,40 de retard donc pour Alejandro Valverde. C'est Richie Porte qui va terminer 5e de cette étape, le fidèle lieutenant de Chris Froome qui a quel sourire, semble-t-il, à moins que ce soit le masque de la souffrance. Richie Porte qui sait que son leader et copain Chris Froome a remporté ce Tour de France aujourd'hui, même s'il ne remporte pas l'étape, puisqu'on le rappelle, Chris Froome a coincé dans le dernier kilomètre de cette ascension en ne terminant que 3e à 28 secondes de Quintana.
Et peut-être que lui va brandir les bras en l'air, peut-être. On va surveiller l'attitude de l'Australien Richie Porte, coéquipier modèle qui, par l'intermédiaire de Christopher Froome, remporte son deuxième Tour de France puisqu'il était dans l'équipe de Wiggins l'an passé. Richie Porte qui reste lui aussi très modeste en ne levant pas de bras ni de poings. Talansky franchit la ligne à l'instant, l'Américain, avec Alberto Contador dans sa roue,
voilà,
à 2 minutes 27
très exactement de retard pour Alberto Contador qui a tout perdu sur cette étape, qui a perdu la deuxième place, qui a perdu la troisième place, qui va se contenter de la quatrième place sur les Champs-Élysées demain. Pas de podium pour Alberto Contador, c'est un Français qui en termine à l'instant même, Fred.
John Gadret, coéquipier de Romain Bardet. Où est Romain Bardet, le meilleur Français du classement général qui souffre d'une angine? Romain Bardet qui en termine à l'instant,
incroyable,
à l'énergie,
magnifique.
Derrière Gadret, derrière Kreuziger avec 3 minutes seulement de retard. Il va effectuer un rapproché au classement général, c'est sûr, puisqu'il devrait intégrer le top 15. On va vérifier ça quand même. On va pas faire de faux joie aux supporters de Romain Bardet qui sont
Riblon,
et Christophe Riblon, le vainqueur de l'Alpe d'Huez. Quel tir groupé des AG2R La Mondiale qui auront été les coureurs français de ce Tour de France. L'an passé, on avait eu Europcar, cette année c'est AG2R La Mondiale.
FDJ l'année dernière.
Exact.
Mais là, les deux sont aux abonnés absents. En revanche, magnifique prestation d'ensemble de l'équipe AG2R avec Gadret, avec Bardet et avec Riblon, vainqueur à l'Alpe d'Huez. D'autres coureurs vont terminer dans un instant. C'est le cas d'un coureur de la formation Radio Shack qui va terminer dans un instant. Fred va nous quitter, il va partir pour la télé. Et nous allons rester avec Cyril et avec Lucho donc pour la victoire de Nairo Quintana. Incroyable succès, décroché par le coureur colombien de la la formation Movistar. C'est génial, Cyril, de voir comme ça un jeune homme de 23 ans larguer le maillot jaune dans la dernière côte, remporter cette étape et terminer deuxième du Tour de France. Quel avenir radieux s'ouvre devant Quintana.
Oui, on a pu le constater depuis le départ du Tour de France. Il est monté en puissance. À chaque fois qu'on a eu des étapes difficiles, des grandes étapes de montagne, il a répondu présent. Et j'ai presque envie de dire, c'est pas une surprise de le voir remporter cette dernière étape de montagne.
Ah, mais si on va écouter tout de suite la réaction de Pierre Roland avec Pierre-Yves Leroux là-bas sur la ligne d'arrivée. Pierre Roland qui n'a malheureusement pas pu conserver son maillot blanc à pois rouge de meilleur grimpeur. Il est avec Pierre-Yves Leroux.
Pierre qui vient d'arriver, c'est un défi compliqué évidemment pour lui aujourd'hui.
Et avec une option pour moi, c'était d'aller devant, de prendre les points. Et puis c'était plus. C'était indépendant de ma volonté après. Donc j'ai fait ce que j'avais à faire en prenant les points au début. Et après, fallait juste espérer que ni Quintana ni Froome gagnent. C'est comme ça. Le barème des points doublés a été complètement défavorable pour moi. Mais le règlement, on le connaît.
Déçu ?
Ah bah oui, déçu.
Déçu par l'ensemble ou pas ?
C'est compliqué à faire un bilan à chaud comme ça. Forcément, en termes de résultats, ça a été moins bon que ces dernières années. Je parle personnellement et pour l'équipe. Après, dans ce sport, il faut une part de réussite et je pense qu'on n'en a pas eu. Et aujourd'hui, on a encore tout donné avec Cyril. Et moi aussi, avec ce que j'ai fait hier, j'avais tout ça dans les jambes, mais je me suis battu encore en y croyant très fort. Mais voilà, c'était dans la dernière montée, c'est plus moi qui faisais la décision.
C'était le message, Pierre, ce matin de Jean-René dans le bus, c'était ne pas avoir de regrets sur ce tour.
On a fait ce qu'on avait à faire, on s'est battu avec nos moyens. Quintana, Froome, c'est les meilleurs grimpeurs. Moi, j'ai été le coureur peut-être le plus entreprenant avec Riblon, mais c'est comme ça, le barème des points, il est fait tel que ça récompense pas les baroudeurs.
Merci beaucoup, la réaction de Pierre Roland derrière la ligne.
RMC, 23h minuit, toute une journée en une heure, c'est le meilleur du tour, Christophe Cessieux.
Il s'est encore passé des choses, décidément dans ce Tour de France il se passe des choses tous les jours, et Quintana qu'on attendait, qu'on voyait petit à petit se rapprocher de la victoire, a enfin mis la balle au fond aujourd'hui en remportant cette étape de prestige, en battant Rodriguez, en battant Froome. C'est un quadruplé aujourd'hui pour Quintana, c'est pas seulement la victoire d'étape, c'est non seulement la victoire d'étape, mais c'est aussi la deuxième place sur le podium des Champs-Élysées, c'est aussi le maillot blanc de meilleur jeune dont on sait qu'il prédestine souvent ses vainqueurs à un maillot jaune dans les années qui suivent. C'est aussi, enfin, le maillot de meilleur grimpeur. Franchement, avec Froome, c'est l'autre héros de ce Tour de France, Cyril.
Bien, il y a deux hommes sur ce Tour de France. Il y a Froome, bien sûr, qui va remporter le Tour de France, donc c'est quand même lui le grand vainqueur. Et puis il y a ce petit bonhomme colombien qui aujourd'hui a littéralement explosé sur cette dernière étape du Tour de France avec cette arrivée au sommet à Semnoz. Mais on l'a vu depuis le départ monter en puissance et ce qu'il a démontré sur ce Tour de France et surtout sur cette dernière semaine, rappelez-vous la montée qu'il a réalisée dans l'Alpe d'Huez, eh bien on peut dire que c'est un futur vainqueur du Tour de France. C'est celui qui pourra mettre en difficulté cette puissante équipe Sky, qui a peut-être été un petit peu plus discrète sur ce Tour de France, moins puissante, mais il est vrai qu'elle n'avait pas ses Colombiens.
Oui, Urán n'était pas là.
Rigoberto Urán n'était pas là et Henao non plus. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, les Colombiens ont actuellement trois coureurs.
Trois perles.
Qui peuvent gagner le Tour de France, car les trois peuvent être des vainqueurs en puissance du Tour de France.
Incroyable.
Comme quoi, pendant 20 ans.
Ah, bienheureux Colombien.
Depuis Herrera, les Colombiens faisaient un petit peu.
Parra aussi.
Oui, mais bon, surtout dans la victoire des Tours, c'était surtout Herrera. À tel point À tel point que les journalistes colombiens n'étaient pas venus sur le tour.
Ils sont arrivés avant-hier, il y a trois jours.
Ils sont arrivés
sans accréditation, sans caméra ou presque, alors que dans les années 80, ils étaient là, bien installés. On a entendu. Écoutez ça, c'était d'ailleurs, tout à l'heure, on l'a passé dans le direct, on va le réécouter. C'était l'ambiance qu'il règne donc à la télé colombienne lorsque notre ami Quintana remporte l'étape. Et évidemment, on va aussi entendre à nouveau les années 80 avec Lucho Herrera. Tiens, écoutez ça, c'est assez.
Ça va me rajeunir.
Y atención que Nairo, parcialmente, de manera extraoficial, es tercero en la general del Tour de Francia. Así que hace historia Nairo Quintana en Alpe de Bues. Un colombiano está consiguiendo meterse en el podio del Tour de Francia. De nuevo el ciclismo colombiano. En el 84, Lucho Herrera fue ganador de esta fracción.
Voilà les radio-reporters des années 80, les radio-reporters colombiens qui nous régalaient évidemment sur les routes du Tour de France et qui se régalaient à commenter la victoire de Lucho Herrera en 84, je crois, à l'Alpe d'Huez.
Christophe, quand on entend que tout à l'heure tu dis excusez-nous, on s'est un petit peu emballé.
Ah oui, mais par rapport aux Colombiens, on est des petits joueurs, tout petits joueurs. Même Jeannot Reséga est un petit joueur à côté des commentateurs brésiliens de football. Mais voilà, en Europe, on n'a pas la même culture, mais c'est vrai que moi j'aimerais bien aller travailler aux Colombies. Lucho, toi t'es pas Lucho Herrera, c'est Lucho Leblanc, lui aussi grimpeur de renom. Est-ce que tu penses que Quintana aurait pu remporter le Tour de France dès cette année? Est-ce qu'il aurait pu inquiéter encore plus Froome qu'il ne l'a fait cette année, et notamment dans cette étape aujourd'hui?
Quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé ces trois derniers jours, peut-être, oui. S'ils avaient couru intelligemment dans la première étape pyrénéenne, s'il avait attaqué un peu plus tôt que prévu, sachant que Froome était complètement isolé pendant pratiquement 100 km, oui, il aurait pu inquiéter davantage Froome, et on aurait pu se poser la question de savoir si Quintana pouvait remporter le Tour cette année. Oui, mais bon, après on peut pas revenir en arrière, mais bon, il avait l'occasion peut-être de réduire un certain écart avec Froome et de l'inquiéter davantage.
Thierry, tu partages cette analyse? Il y a quand même 3 minutes 28 je crois de différence entre Froome et Quintana lors du premier contre-la-montre au Mont-Saint-Michel, contre-la-montre qui était entièrement plat. Après c'est vrai que en montagne il s'est beaucoup mieux défendu Quintana, mais 3:28 sur combien, 32 km de contre-la-montre, c'est quand même beaucoup, hein, Thierry.
Ben, il faut vraiment qu'il travaille le chrono, mais en a-t-il la possibilité?
Il n'était pas mauvais quand il était jeune, je crois. Il a été champion de Colombie du contre-la-montre.
Oui, mais ça ne veut pas dire, c'est pas une référence. Champion de Colombie de chrono, à la rigueur, champion des grimpeurs de chrono. Des
Colombie, ça veut dire quelque
Colombie
chose,
ça veut dire quelque chose, c'est une référence, mais là, c'est une petite référence. Il n'est pas mauvais. Mais pour aller titiller les Froome, il y a encore beaucoup de marge. Ouais.
Donc pour toi, il n'aurait pas pu remporter le Tour cette année?
Même sans
les erreurs tactiques de sa formation.
Tactique, il y a quoi? Il y a l'attaque un peu trop tôt dans les Pyrénées, mais
un peu trop tard dans la première étape pyrénéenne.
Un peu trop tôt dans les Pyrénées, un peu trop tôt.
Ah oui, il est parti trop tôt.
Il est parti dans le col de Payer. Il y avait Riblon. Il y avait Riblon qui était seul en tête et il est sorti du peloton. Il est allé chercher.
Il est parti trop loin. Il a rattrapé tout le monde, mais après il a coincé un peu dans le dernier quand Froome et Richie Porte a attaqué. Pour moi, il y en a trois sur ce tour. Il y a Froome, Richie Porte et Quintana. Mm-hmm.
Mais Richie Porte, il a un rôle d'équipier, il a fait un boulot énorme, c'est un super équipier, rappelez-vous, il y avait un super équipier
l'année dernière, il s'appelait Froome.
Ouais. Donc tu penses que Richie Porte remportera le Tour l'année prochaine?
J'irai pas jusque là. Ou alors si la Sky arrive à faire ça, la chapeau.
Ah là là, ouais. Trois leaders différents, ce serait énorme. Cyril, tu as étudié les chiffres tout à l'heure lorsqu'on a évoqué ce thème de débat. Quintana a quand même aurait pu passer peut-être pas la victoire, mais être beaucoup plus proche de Froome au classement général.
Oui, la victoire de Froome ne souffre d'aucune contestation, et même pas celle de Quintana. Si Quintana avait effectivement pas fait certaines erreurs, ou son équipe a fait certaines erreurs sur la traversée des Pyrénées, rappelez-vous, bon, on lance très tôt dans la montée du col de Payer, il fait toute la descente dans le vent, il se fait rejoindre au pied de la montée, il perd une minute, presque une minute trente ou une minute quarante. Ensuite, si on prend toutes les autres arrivées au sommet, il va plus vite il va plus vite que Froome. Et encore, on le fait partir à 14 km dans le Ventoux. C'est-à-dire que dans toutes les arrivées au sommet, si on avait eu confiance en lui, parce que je crois que le problème au niveau de l'équipe se situe là.
Il qu'on se avait, demandait ce qu'il allait faire.
En fait. On avait plus confiance en Rui Costa et en Valverde pour le classement général que pour le Colombien.
Ah, surtout et, Valverde, parce qu'ils oui. ont sacrifié les deux. Hein.
Mm-hmm. Oui, ils ont sacrifié en plus. Mais ils s'étaient rendu compte qu'il fallait garder Quintana dans l'étape de...
Ouais, c'était limite, ils ont fait l'erreur suprême.
Quand on voit que dans toutes les arrivées au sommet, à chaque fois que Quintana a perdu du temps, c'est qu'il y a eu une faute de stratégie. Ouais. Mais c'est lié à ce manque de confiance qu'on pouvait légitimement avoir sur un coureur qui débute dans le Tour de France, qui a 23 ans. Et s'ils avaient au contraire cette confiance en lui et qu'ils avaient couru pour lui, eh bien Quintana serait vraisemblablement à moins de 3 minutes, à moins de 3 minutes de Froome.
Alexandre nous appelle au 32-16 pour évoquer le cas Quintana. Bonsoir Alexandre.
Oui, bonsoir monsieur.
Bon alors, Alexandre, tu penses que Quintana aurait pu inquiéter, aurait pu gagner le Tour de France dès cette année ?
Ah, ben pour moi, Quintana, c'est la belle surprise de ce Tour. Et quand on écoutait les commentateurs en début de Tour qui disaient qu'il n'avait pas pris la bonne optique d'aller s'entraîner en Colombie, ils se sont complètement gourés, déjà, un. Et deux, par rapport à une remarque qui a été faite sur la Colombie, être champion de contre-la-montre en Colombie, la Colombie est un pays dans lequel le vélo est très très structuré, il y a énormément d'écoles de cyclisme et être champion de Colombie déjà en contre-la-montre c'est déjà pas mal et je pense que ce garçon va encore progresser parce qu'il est, il est jeune et tout dépend comment le Tour va être dessiné l'année prochaine.
Oui, c'est ça aussi.
Mais c'est vrai qu'en contre-la-montre plat il a encore beaucoup de boulot pour rattraper l'anglais mais concrètement pour moi c'est la belle surprise. C'est la belle surprise de ce Tour. Et juste, j'espère qu'il y a une petite histoire qu'a raconté Laurent Fignon dans son bouquin sur les Colombiens dans le Tour de France, leur manière d'acheter des étapes. J'espère que ça ne sera plus le cas.
Ouais. On l'espère évidemment. Ouais. Merci Dominique pour cette petite anecdote de Laurent Fignon. C'est vrai Cyril ça que les Colombiens achetaient les étapes dans les années 80?
C'était peut-être pas impossible.
Ah, c'était peut-être pas impossible.
Dans les
années 80, c'était un peu toi le druide en chef quand même du Tour de France.
Non, c'est depuis que je suis sur RMC, c'est mon cher Christophe. D'ailleurs, c'est vous, mon cher Christophe. Je vais vous voyez maintenant, puisque c'est comme ça. C'est vous qui m'avez surnommé le druide, tout simplement parce qu'on avait traversé la forêt de Brocéliande.
Exactement, la forêt de Brocéliande, c'était il y a quelques années. Donc Quintana, la grande et belle surprise de ce Tour de France, évidemment, nous continuerons d'en parler tout au long des jours qui viennent. Il n'en a plus qu'une de journée. Ce sera demain, évidemment, pour cette dernière étape.
RMC, 23h minuit. Toute une journée en une heure. C'est le meilleur du Tour. Christophe Cessieux.
Nous revenons évidemment sur cette dernière étape de montagne. Nous avons évoqué le cas Quintana qui a réalisé le jackpot aujourd'hui, le quadruplé de Quintana. Étape, deuxième place sur le podium des Champs-Élysées, maillot de meilleur jeune et maillot de meilleur grimpeur. Il est le deuxième homme de ce Tour de France, deuxième homme derrière Chris Froome qui va donc demain remporter le Tour de France. C'est désormais officiel ou quasiment. Cyril, on ne voit pas ce qui pourrait lui arriver. De toute façon, c'est une tradition. Maintenant, on fige quasiment le classement.
On ne peut pas souhaiter quoi que ce soit.
Ah mais non, mais évidemment. Donc non, il a gagné son Tour de France. En plus, on en parlera demain de la personnalité de ce Chris Froome. Mais franchement, je suis beaucoup plus content de voir ce garçon gagner le Tour de France cette année que l'autre Rosbif de l'an dernier, Bradley Wiggins. Insupportable bonhomme. Insupportable bonhomme.
Non, non, mais de toute façon, il est pas anglais de culture. Il est africain du Sud, il est kenyan.
Un garçon bien élevé, un garçon attentif, un garçon... On dormait dans le même hôtel que lui la nuit dernière. Je l'ai croisé dans l'escalier hier soir. Il dit bonjour à tout le monde, il signe des autographes, il se laisse photographier avec les gamins, il est dispo avec la presse, il parle français alors qu'il ne le maîtrise pas parfaitement. Franchement, humainement, c'est un type parfait. J'espère que sportivement, il est parfait. Vous le savez, évidemment, les doutes ne sont pas complètement enlevés, comme ils ne sont jamais enlevés sur aucun coureur du Tour de France. Mais en tous les cas, humainement, c'est un mec bien et on est ravis pour lui qu'il puisse remporter ce Tour de France. Froome, qui malgré tout, aujourd'hui encore, a montré des limites. Hein. On a vu qu'il n'avait pas su répondre à la taille de Quintana. Alors, c'est la question en fait. A-t-il montré des limites ou était-ce du bluff, Thierry? Je sens que tu bous d'impatience de nous livrer ton verdict.
Non, moi je ne l'ai pas trouvé vraiment limite. Et c'est lui qui a tout fait exploser quand même. Vous oubliez ça. Après, dernière attaque, c'est vrai que... Elle n'est pas exceptionnelle. Derrière, Quintana est parti. Et c'est vrai que je me pose la question à savoir si vraiment il voulait cette étape ou si il s'est dit bon, ben Quintana, c'est un bon mec.
Et on mais va Thierry, ce n'est pas la première fois quand même qu'il subit des contre-coups l'autre jour, dans l'Alpe d'Huez.
Le
coup de fringale quand même.
Un léger coup de fringale, oui. Mais, ça reste un homme. Voilà, vous avez oublié qu'il était un.
Mais avant, il y avait des surhommes. Maintenant, il y a des hommes.
C'est pas lui, la machine. La machine qui n'avait aucune défaillance et qui ne risquait absolument rien. Là, on s'est aperçu que
c'est plutôt rassurant,
que Froome, oui, on peut dire que c'est rassurant parce que quand il fait mauvais, quand il fait froid, qu'il s'alimente mal avec tous les efforts qu'il a dépensés. Et il arrive à craquer comme un autre.
Et en plus, lorsqu'il commet ses attaques, on l'a vu encore une fois aujourd'hui, comme lors de l'étape du Ventoux, il attaque très vite, il sprint dans la montée, c'est toujours très impressionnant, Cyril. Mais ça dure pas longtemps et derrière, il est obligé de respirer comme tout le monde. C'est un être humain, il faut respirer aussi à un moment donné quand on fait les efforts.
Je pense que ses adversaires vont également étudier sa façon de courir. Et sa façon surtout de grimper. Alors, il fait partie de ces grimpeurs capables de faire des accélérations successives. Donc, il faut pas réagir quand il attaque.
Il faut pas aller le chercher quand il part en sprint.
Surtout pas aller le chercher parce que là vous faites sauter le moteur, quoi. Actuellement, qui peut le suivre au moment d'une accélération? Personne, et même Quintana.
Même pas Quintana.
A remarqué qu'il a jamais répondu à une accélération. C'est la culture des vrais grimpeurs colombiens.
Ils préfèrent revenir au train.
Vous savez qu'en Colombie, est-ce que vous savez combien de kilomètres fait un col en Colombie en règle générale? C'est 40 bornes.
Oui, c'est le double de la Madeleine des grands cols des Alpes.
Moi j'ai fait avec l'équipe Renault, avec Laurent Fignon, avec Marc Madio, avec Charlie Mottet.
Et puis ça monte plus haut qu'en Europe.
Ça monte plus haut. Donc on se retrouvait là-bas avec des cols de 40 bornes. Des fois, vous les voyez, ils sont un petit peu en difficulté, ils se font larguer. Jamais ils accélèrent.
Lucho, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, comme l'autre jour dans l'Alpe d'Huez, certains l'ont évoqué, c'était du bluff de la part de Chris Froome?
Non, c'est pas du bluff. Mais moi, je pense qu'il a un petit défaut, Chris Froome, c'est que certes, ses attaques sont incisives, il fait la différence de suite, mais il n'arrive pas à tenir le rythme. Et là, on l'a vu aujourd'hui, je pense que son défaut... ça va lui rattraper l'année prochaine parce que c'est pas évident qu'il puisse regagner encore un tour. Parce que les Colombiens, bon, notamment Quintana et son staff, se sont aperçus que certes, ils faisaient des accélérations tonitruantes. Voilà, il prend 100 mètres en 50 mètres, mais à la limite, on s'en fout. Ce qui compte, c'est de faire la différence et de continuer sur le même rythme pour pouvoir creuser l'écart. Le problème, c'est que, comme le disait Cyril tout à l'heure, Quintana, il reste à son rythme, il accélère petit à petit, il revient sur Froome. Et puis à un moment donné, quand Froome va se retrouver dans un col de 20-25 bornes, à faire ce qu'il est en train de faire, il peut le payer très très cher. Ouais, il faut faire gaffe l'année prochaine avec Quintana parce que ça sera un danger pour Froome.
Exactement, Olivier.
Dans l'analyse de cette année.
Olivier nous appelle les Alpes-Maritimes au 32-16. Bonsoir Olivier.
Bonsoir les gars.
Alors bluff, pas bluff, limite pour Chris Froome, qu'est-ce que tu en dis?
Moi j'en dis que ce mec-là, j'ai l'impression qu'il roule à l'eau claire et qu'il est humain. C'est-à-dire qu'il a fait un super début de saison, il a fait un super Dauphiné, il a fait un bon Tour de France, mais là je crois qu'il est un peu cuit. Et même la dernière fois quand il a eu sa soi-disant fringale, je pense qu'il a fait passer ça pour une fringale, pour pas que les autres l'attaquent, sachant qu'il était peut-être affaibli. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi c'est ce que je pense.
Il faut qu'on précise un certain nombre de choses, peut-être que vous n'avez pas eu les informations, mais il n'avait plus de directeur sportif derrière lui depuis le sommet.
Il n'était vraiment pas alimenté, il n'avait plus rien à manger.
Puisque la voiture était tout simplement en panne, et il a fallu que Nicolas Portal, son directeur sportif, attende la deuxième voiture pour changer de voiture, et en fait Nicolas Portal n'est revenu qu'à 4 km de l'oreillette. Il n'avait d'ailleurs même plus d'informations, puisque l'oreillette, il y a longtemps qu'elle ne fonctionnait pas. Et c'est pour ça qu'il a appelé au moment quand il a senti la fringale arriver, parce que ça faisait quand même plus de 30 bornes qu'il avait été ni ravitaillé en liquide, ni ravitaillé en solide.
Moi, ça me paraît un peu gros, moi.
Qu'est-ce qui est un peu gros?
Ben, je sais pas, quand on a des équipiers autour de soi, on peut se passer une pâte de fruits ou un bidon, etc.
Mais il n'y a plus aucun, Porte n'avait rien non plus.
Et il n'y avait que Richie Porte à ses côtés.
Ça m'étonne, je sais pas.
Ouais. Mais non, mais après, les gars, ils n'avaient plus rien dans leur poche, quoi.
La voiture, on pouvait pas.
Autant que Froome.
Non, faut pas voir le mal partout quand même.
Ah non, moi je vois pas le mal, au contraire, moi c'est tout à son honneur. Je pense que c'est quelqu'un qui est humain, je pense qu'il roule à l'eau claire et qu'il arrive vraiment, vraiment fatigué à la fin de ce tour, quoi.
Ah, ça, c'est, ça, c'est évident. C'est sûr. Mais vous savez ce qui fatigue le plus? C'est la pression, c'est le pouvoir. La pression du maillot jaune, alors elle se traduit sur le vélo, bien sûr. Mais attendez, Froome, tous les soirs, il part 1h30 après les autres, hein, d'ici. Hein.
Et là, il est parti il y a un quart d'heure seulement de la ligne d'arrivée. Il donnait sa dernière conférence de presse.
Alors, les contrôles antidopage auxquels il est obligé de se soumettre, et c'est tout à fait logique, tout le protocole des interviews, alors vous avez la télévision, bien sûr, ceux qui ont les droits, alors on ne va pas rentrer dans le détail, les télévisions qui n'ont pas les droits, non, c'est encore autre chose. Après, vous avez les radios, après vous avez la presse écrite.
Et après, vous avez...
après, vous avez le contrôle auquel il faut passer.
Et après, il faut rentrer à l'hôtel, vous faire le massage, il faut manger, il faut se coucher.
Et en plus, il fait de l'entraîneur.
Il faut téléphoner à maman. Enfin bref, il y a plein de choses à faire quand même.
En plus, entre tout ce que vous avez annoncé, il fait de l'entraîneur pour récupérer.
En plus, il fait.
Donc c'est pour ça qu'il perd du temps pour arriver.
Merci Olivier en tous les cas de cet appel. Donc Chris Froome qui est en train de conquérir le cœur du public français. Il y en a un en revanche qui aujourd'hui a tout perdu, c'est Alberto Contador. Il était deuxième ce matin sur le podium. Il était assuré de monter.
Ça va pas faire plaisir à Thierry, hein. Je te l'avais dit Thierry, mais non hier tu me disais mais si.
Contador a craqué Thierry, il n'est plus sur le podium. Il va terminer quatrième de ce tour. Au départ en Corse, il était donné comme co-favori avec Chris Froome, un petit peu en deçà de Chris Froome, mais aujourd'hui il a tout perdu. Lui aussi finit le tour très très fatigué.
Sauf pour moi, rappelez-vous.
Oui, c'est vrai. Toi, de toute façon, tu n'as jamais cru en Contador. Depuis très longtemps, tu nous le disais. Thierry, tu es déçu par la performance d'Alberto Contador?
Oui, déçu. Mais déjà hier, Lucho, on discutait de ça. Et dans les paris, j'avais mis Quintana. Donc en mettant Quintana devant, je savais qu'il pouvait. Et il y avait 21 secondes. 21 secondes, c'est rien du tout. Et là, on a vu que c'est limite. Parce que vraiment limite. À la rigueur... s'ils avaient joué la carte de son équipier Kreuziger.
C'était le premier à craquer aujourd'hui quand même Kreuziger, hein,
Oui, mais à chaque fois il revient, il fait du boulot et il se met à la planche. Franchement, je salue
c'est
tout le
Richie
travail.
Porte de Contador.
Ah oui, exactement. Et il y en a deux là qui pourraient avoir la médaille des équipiers, c'est ces deux-là. Ouais. Franchement.
Sauf que Kreuziger est moins fort que Richie Porte et que Contador est aussi
moins fort que
Froome.
Oui.
Cyril, est-ce que c'est la fin d'Alberto Contador? Est-ce que tu penses qu'il regagnera un jour le Tour de France? On l'a entendu tout à l'heure, il a décidé l'année prochaine de se concentrer uniquement sur le Tour de France. L'objectif 2014 sera le Tour et uniquement le Tour.
Alors moi je me méfie, et c'est pas la première fois que je le dis, je me méfie toujours des déclarations. En plus c'est une déclaration à chaud quand il descend et que là il vient de perdre la place sur le podium. Attendez, laissez le Tour se passer, attendez du temps, que tout le monde analyse un petit peu, débrief de l'ensemble du Tour de France et puis on verra ce qui se passera. Personnellement, je pense que Contador ne gagnera plus jamais le Tour de France.
Très bien.
Il n'y a pas que toi.
Il n'y a pas que toi. Ouais, toi aussi.
Lucho,
il est au bout d'une
carrière, je pense.
Oui, non, mais ça, c'est clair et net.
Et Cadel Evans?
Cadel Evans, c'est encore pire. Parce que là, il fait peine.
Ah ben, Andy Schleck, le pauvre, il faut qu'il se remette en question.
Il y a une génération qui s'en va.
Andy Schleck n'est pas vieux, attendez.
Non, mais une génération, c'est la génération.
Il faut qu'il se remette en question.
Oui, en question, mais surtout, et tout ça est dans les descentes.
Très bien.
RMC, 23h minuit, toute une journée en une heure, c'est le meilleur du tour.